OK, on va continuer notre leçon qu'on avait débutée la semaine dernière dans la sanctification biblique. On avait vu que la leçon était divisée en deux parties. Donc, la première partie, c'était la vraie nature. Qu'est-ce que c'est, autrement dit, la sanctification biblique? Et la deuxième partie, c'était les marques visibles. Autrement dit, quand quelqu'un se sanctifie, il y a des choses qui sont observables par les autres. Alors, ce qu'on va faire, on va reviser très rapidement les différentes... ce que c'est la nature, là. On ne les reprendra pas une par une vraiment dans les détails, mais on va juste nommer, pour qu'on se souvienne un peu, la nature de la sanctification, qu'est-ce que c'était. Alors, on avait vu que la première chose, c'était que la sanctification, c'est le résultat invariable de l'union vitale avec Christ que seule la vraie foi donne aux chrétiens. Autrement dit, quelqu'un ne peut pas se sanctifier s'il n'a pas été régénéré par le Saint-Esprit. La deuxième observation, c'était que la sanctification, c'est l'aboutissement et la conséquence inséparable de la régénération. Autrement dit, on ne peut pas dire que quelqu'un a reçu la grâce de Dieu et est né de nouveau, puis qu'il mène une vie juste par la parole. Autrement dit, il dit « je suis sauvé », mais il n'y a pas d'action d'obéissance à la parole de Dieu. Donc, à quelque part, c'est la régénération amène toujours la sanctification, parce que par définition, le Saint-Esprit prend possession de notre personne et nous transforme graduellement. Alors, quand il n'y en a pas, si quelqu'un dit qu'il est croyant, puis qu'il n'y a pas de sanctification, à quelque part, ça peut nous amener à douter. La troisième, c'était que la sanctification, c'est la seule preuve certaine de l'habitation du Saint-Esprit qui est essentielle au salut. Donc, autrement dit, la façon de voir si quelqu'un est né de nouveau, c'est de le regarder vivre. Si au cours d'une... ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu es chrétien, normalement, il devrait y avoir des choses qui ont changé dans ta vie. Ta façon de penser, ta façon de parler, ta façon d'agir, etc. La quatrième chose, c'est que la sanctification est la seule marque certaine de l'élection divine. Autrement dit, quelqu'un qui est régénéré, né de nouveau, chrétien, il va y avoir une sanctification, et c'est la marque qu'il était véritablement un élu de Dieu. La cinquième, c'est que la sanctification est toujours une chose visible. Quand on se sanctifie, je sais pas si vous avez déjà, je me souviens d'avoir déjà rencontré des personnes qui m'ont dit, lui, là, il a tellement changé, là. Avant, il était comme ci, il était comme ça, il parlait mal, il sacrait, ici, ça. Et maintenant, il est une nouvelle personne. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans sa vie, dans sa manière de vivre avec sa femme, dans sa manière de vivre avec ses enfants, dans sa manière de vivre avec ses voisins, etc., etc. Alors, c'est une marque visible. Ça, c'est normalement, quelqu'un qui est sauvé, c'est toujours observable par les autres. Ah, il y a quelque chose qui n'est plus comme avant, lui. Sixième chose, la sanctification est exigée du croyant. Il en est responsable devant Dieu. Quelqu'un ne peut pas dire, ben moi, je suis régénéré, je suis né de nouveau, mais je me laisse aller parce que c'est un commandement de Dieu. Dieu exige, il demande, il nous dit pas, ben, ça te tente, sanctifie-toi. C'est, il exige que tu te sanctifies. Et il faut pas oublier que les Écritures nous enseignent qu'on est responsable devant Dieu de notre sanctification. On a des moyens de grâce, les Écritures, la prière, et bien d'autres. On rentre pas dans les moyens de grâce ce soir, mais c'est de, quelqu'un, normalement, qui veut se sanctifier, va utiliser les moyens de grâce. La septième observation, c'est que la sanctification comporte de la croissance et des degrés. Normalement, avec l'âge, avec le nombre d'années que quelqu'un est dans la vie chrétienne, il va y avoir croissance. C'est pour ça qu'on appelle ça la sanctification progressive. Normalement, au cours de ta vie, tu devrais avoir du progrès de façon constante. Alors, la huitième observation, c'est que la sanctification s'accomplit toujours par les moyens de grâce. Là, on va en nommer quelques-uns. Nos rapports avec la Bible. On a un livre que le Seigneur nous a donné. J'ai déjà fait une série sur ça, je pense 5-6 messages. Et j'avais pris chaque point, chaque chose qu'on peut faire avec les Écritures. On peut les écouter, bien sûr. On peut les écouter soit les sermons, soit sur Internet. On peut les lire, les Écritures. Il y a plusieurs façons de lire les Écritures. Tu peux lire ça à presse le matin, une lecture superficielle qui ne comprend pas grand-chose, puis que deux minutes après que c'est fait, tu l'oublies. On ne devrait pas lire la Bible de cette façon-là. Des fois, peut-être, il faut peut-être mieux prendre des plus petits passages et rentrer dedans, questionner le texte, le méditer. Méditer, ça veut tout simplement dire poser des questions au texte et prier que le Saint-Esprit nous révèle le sens véritable des versets. Après ça, il y a la méditation. Souvent, quand je préparais ma leçon sur la méditation, la plupart des auteurs disaient « la méditation est un art qui se perd ». J'ai, quelque part dans ma Bible, un petit dépliant où il nous donne 10 questions. Disons, on lit un texte, un chapitre des Écritures. On prend les 10 questions et on essaye de répondre aux questions. Parce que, par exemple, une des questions, c'est « qu'est-ce que le texte vous enseigne sur la personne de Jésus-Christ? Qu'est-ce que la personne vous enseigne sur le péché? » Et il y a 10 questions comme ça. Et si on s'habitue de lire un texte en questionnant le texte et en le méditant, ça nous enrichit. Et ça contribue à ce que notre compréhension des Écritures nous amène quelque chose. Et il y a une autre chose qu'on peut faire avec les Écritures qui se perd beaucoup de nos jours aussi, c'est la mémorisation. Qu'est-ce que la Bible dit quand on mémorise les Écritures? Qu'est-ce que ça fait? Ça nous éloigne du péché. La mémorisation de la Bible nous aide à combattre le péché. Vous souvenez-vous, Jésus, quand le malin est venu l'attaquer, il a répondu comment? La Bible. Ça veut dire qu'il connaissait les Écritures. Alors, nous, comme chrétiens, on se devrait de se faire un devoir d'essayer d'apprendre des versets. Le plus qu'on peut. On est paresseux un petit peu des fois sur les bords. Faut l'avouer, hein. Faut l'avouer qu'on est paresseux. Mais plus quelqu'un connaît les Écritures et plus il se donne la peine de mémoriser les Écritures, plus il va être béni parce que ça va le rendre plus fort dans son combat avec le péché. Et il y a une autre chose aussi qui se perd de nos jours, l'étude. Une étude. Alors, bien souvent, des gens vont dire, ben moi, je sais pas comment faire pour étudier. Ben c'est sûr, des fois, tu sais pas comment faire. Mais quand tu ne sais pas comment faire, tu demandes à quelqu'un qui sait, qui te le montre. C'est un peu comme si je veux apprendre n'importe quel métier. Si je veux l'apprendre, je vais dire à une personne qui connaît ça, « Montre-moi comment faire, puis je vais l'apprendre. » Alors, l'étude, ça prend des outils fondamentaux. Une concordance. Un bon dictionnaire de la Bible. Quelques bons commentaires en français. Si vous lisez l'anglais... Encore mieux, le bassin de ressources est encore énormément plus grand. Étudier les Écritures, ça veut dire qu'on prend un chapitre, un texte, une doctrine, un thème, et qu'on le fouille un peu. On va plus en profondeur. Et ça, quand on fait ça, on est toujours béni. Alors, sur les 5 choses, c'est les moyens de grâce. Alors, le Seigneur se sert de cela, des efforts qu'on fait avec ces 5 choses-là, pour nous faire soit grandir, puis si on les utilise pas, ben il se passe à rien. Alors, il faut faire des efforts pour faire écouter la Bible mieux, lire la Bible mieux, méditer la Bible mieux, mémoriser la Bible mieux, étudier la Bible mieux. Alors, les petites questions sur la méditation, j'en ferai des copies, j'en donnerai... C'est une bonne affaire, tu lis ton chapitre, tu mets tes petites questions à côté de toi, puis tu te prends un petit cahier, puis tu essaies de répondre aux questions. Puis je vous le dis des fois, à première vue, on ne l'avait pas vu que ça parlait de Christ, puis oups, ça parle de Christ, et on apprend toutes sortes de choses en faisant ça. Autre chose qui est un moyen de grâce, c'est tout simplement la prière. Il y a plusieurs façons de prier, individuellement, en couple, pour ceux qui sont en couple. Après ça, vous pouvez prier en église. Ce soir, vous utilisez un moyen de grâce. Vous êtes dans votre soirée de prière. Après ça, il y a la prière en église. Le dimanche, puis tout ça, il y a encore de la prière qui se fait là. Alors, la prière individuelle de couple, familial et en église. Plus on en fait, plus on est fort. Ça, prenez n'importe quelle biographie de grand homme de Dieu ou de grande femme de Dieu, et vous allez voir qu'il y a des constantes. Toutes des personnes qui ont des rapports avec les Écritures très riches, et des personnes qui ont des rapports avec, avec la prière de façon très riche aussi. Souvent, les personnes que Dieu utilise beaucoup sont des personnes de prière. L'assistance aux réunions, voyez-vous, en tant qu'on était à Rouen, on faisait 3 réunions par semaine, 52 semaines, ça fait 156 cultes, ou 156 occasions de se rencontrer et de grandir. Il y en a qui venaient une réunion sur 3. Donc, c'est un peu comme un joueur de baseball. Hein? Si tu es au bâton une fois sur 3, tu ne frappes pas. Alors, plus on utilise les moyens que Dieu nous donne pour grandir, plus on devient fort. Alors, l'assistance aux réunions, il n'y a pas beaucoup de personnes qui comprennent l'importance de nos cultes en général. Actuellement, nous, on a 2 semaines. 52 semaines multipliées par 2, ça fait 104. Un chrétien, normalement, devrait être là aux 104 réunions. Puis ceux, vous remarquerez dans les réunions, ceux qui sont les plus forts, normalement, dans leur vie chrétienne, c'est souvent ceux qui sont toujours à leur culte. Il y a un lien direct. Après ça, il y a d'autres moyens. Il y a le repas du Seigneur. Bien sûr, si quand vous avez le repas du Seigneur, vous n'êtes pas là, n'en profitez pas. Il y a la soirée de prière. Il y a les autres réunions aussi. Il y a d'autres réunions que l'Église organise. Par exemple, on va avoir un repas communautaire là, le 18 décembre. Ça, c'est pas nécessairement une activité où il va y avoir beaucoup de prières, où il va y avoir de la prédication. Probablement qu'il n'y aura pas beaucoup de tout ça, ou peut-être pas du tout, ou presque pas. Mais il va y avoir de la communion fraternelle. C'est là qu'on apprend à se connaître. C'est là qu'on apprend toutes sortes de choses les uns et les autres. Et on a besoin de connaître ces choses-là. Comment voulez-vous qu'une personne prie intelligemment, disons, pour qui que ce soit, si on ne les connaît pas? On ne sait pas leurs problèmes, on ne sait pas leurs difficultés, on ne sait pas leur passé, on ne sait pas rien. C'est difficile de prier. Si on sait le nom de leurs enfants, déjà, ça nous donne une occasion. On sait pourquoi prier, etc. Après ça, il y a, bien sûr, l'évangélisation, qui est un moyen de grâce. Ça aussi, de nos jours, je me suis rendu compte, pas rien que moi, là, d'autres pasteurs aussi, se rendent compte que parfois, il y a comme une certaine baisse, une certaine... On n'évangélise pas autant qu'on devrait. Il y a toutes sortes de raisons à ça. La peur, la lâcheté. Des fois, le Saint-Esprit nous met quelqu'un en rapport. On aurait une occasion de témoigner et on passe à côté. Bien, ça, c'est un moyen de grâce qu'on n'a pas utilisé. Alors, l'ensemble de la sanctification, c'est l'utilisation de toutes ces choses-là. Et il y en a un autre moyen de grâce, c'est le service. Quand on est dans une église, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour le bien-être de nos frères et de nos sœurs. Ça peut être tout simplement ramasser les chaises, ça peut être s'occuper de l'ordinateur. Un paquet de moyens, ça peut être tout simplement se promener, donner la main au monde, s'informer d'eux autres, prier pour eux. Il y a une multitude de moyens de... Alors, je mets bien l'observation de J.C. Ryle, l'auteur que j'utilisais, il disait en anglais « There's no spiritual gains without pains ». Autrement dit, il n'y a pas de gain spirituel sans effort coûteux. Ça coûte toujours quelque chose. Hey, ça fait... J'étais souvent 79, ça va faire bientôt 40 ans. Je sais c'est quoi après avoir une journée de travail à la mi-culte le mercredi soir. Quelqu'un vient pas me dire que je sais pas c'est quoi, là. Pendant 40 ans, je suis allé à mes cultes le mercredi soir. Mais il y a des fois que je suis fatigué et ça me tentait pas d'y aller. Mais le Seigneur, il regarde pas comment on file. Il regarde si on obéit ou si on n'obéit pas. Tu sais, c'est... Comment qu'on file, là, bien souvent, on restera chez nous 3/4 du temps. Alors, faire l'effort, ça coûte quelque chose de se sanctifier. Tu vas à ton culte, ça te tente pas. Tu vas retirer quelque chose, normalement, de ces choses-là. Et, 9e observation, la sanctification n'empêchera pas le croyant d'expérimenter un grand combat spirituel intérieur entre la chair et l'esprit. Quand on est chrétien, il y a un combat intérieur. On le sait, la vieille nature nous habite encore. Elle nous sollicite continuellement pour nous faire retomber dans nos vieux péchés. Et il y a un combat intérieur. Je me souviens, j'avais déjà lu une personne en Afrique qui avait été sauvée, c'était un noir, puis il parlait au pasteur, il dit, c'est comme si j'aurais deux chiens à l'intérieur de moi, puis ils se battent continuellement. Alors, il y a un combat, et normalement, c'est bon signe qu'on sente qu'il y a un combat. Parce que la vieille nature cherche à reprendre sa place, puis l'Esprit de Dieu, elle, a dit, non, c'est pas le même, ça marche. Et la dixième, c'était tout simplement que la sanctification n'est pas une chose qui peut justifier un homme. Justifier un homme, c'est d'être déclaré juste par Dieu. C'est pas parce qu'on fait des efforts de sanctification qu'on est sauvé. Ça, c'est plutôt une doctrine catholique. La doctrine biblique, c'est qu'on est sauvé sur la base de notre foi en la personne et en l'œuvre de Jésus-Christ. Bien sûr, ça va nous emmener à nous sanctifier, mais c'est pas ça, c'est pas nos efforts de sanctification qui vont nous emmener au salut. Et la onzième, c'est la sanctification, c'est la seule chose qui nous sera demandée comme absolument nécessaire, comme un témoin ou une preuve de notre caractère lors du grand jour du jugement. Alors le jour du jugement, voyez-vous 2 Corinthiens 5, 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Et la douzième, c'est que la sanctification, c'est absolument nécessaire pour nous entraîner et nous préparer à la vie au ciel. Ça fait curieux d'entendre ça la première fois qu'un auteur mentionne ça. Il dit, si le Seigneur nous aurait mis au ciel dès qu'on est sauvé, on n'est pas prêt. Il faut qu'il nous amène tranquillement, progressivement, à haïr le mal. Et il arrive un moment où c'est lui qui décide quand est-ce qu'on est prêt. On traverse l'autre côté. Alors, ça nous aide, ça nous entraîne et ça nous prépare à la vie au ciel. Maintenant, on va passer aux signes visibles de la sanctification. La vraie sanctification ne consiste pas à parler de religion. 1 Jean 3, verset 18, « Mes petits-enfants, n'aimons pas de paroles ni de la langue, mais en action et en vérité. » Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu « Le voyage du pèlerin », il y en avait un qui s'appelait Monsieur Discuteur. Là-dedans, c'était que le chrétien était en voyage pour s'en aller. Et il rencontrait des personnages au cours de son voyage. Puis il y en a un qui rencontrait, c'était Monsieur Discuteur. Autrement dit, c'était un homme qui aimait beaucoup parler de religion, mais faisait pas grand-chose. Alors quand il l'appelait chrétien, là, celui qui voyageait, et quand il s'en est rendu compte, il s'est éloigné de cet homme-là. Alors, c'est sûr, la vraie sanctification ne consiste pas à parler de religion. Un autre signe, c'est que la vraie sanctification est davantage que de jouir d'expériences religieuses. Des fois, il peut y avoir dans certains milieux, des fois, des personnes qui prétendent avoir vécu des expériences religieuses de toute nature. C'est très difficile pour un autre de juger de la réalité ou de la non-réalité de cela. Mais la vraie sanctification, c'est plus que ça. Parce qu'une personne pourrait très bien s'auto-séduire en vivant toutes sortes d'expériences qui disent venir de Dieu, puis qui ne viennent pas nécessairement de Dieu. Troisième, c'est que la vraie sanctification ne consiste pas en formalisme et en des expressions de dévotion externe. Je ne sais pas si vous... Le formalisme, vous savez ce que ça veut dire? Formaliste, c'est juste avoir les formes. Autrement dit, tu vas à ton culte, tu t'assois toujours à la même place, tu fais toujours les choses. On dirait que tu penses que tu gagnes quelque chose en faisant quelque chose. C'est la forme. Alors, les gens te voient aller à ton culte, mais dans le fond, tu y vas pas pour honorer Dieu, tu y vas pas pour adorer Dieu, tu y vas parce que les autres... La formaliste, tu y vas pour la forme, ça le dit. Alors, des expressions de dévotion externe. Autrement dit, c'est pas ça qui est des véritables signes de sanctification. La quatrième chose, la véritable sanctification ne consiste pas à s'isoler du monde. Si on sait, par exemple, que la religion catholique, avec les moines et les moniales, avaient tendance à se retirer du monde dans les couvents et à penser que la sanctification, c'était ça. Le Seigneur nous a jamais demandé de nous enlever du monde. Il nous a demandé de ne pas être dans le monde. Il dit dans Jean 17, verset 15, il dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » Alors c'est ça qu'ils font. Ils s'enlèvent du monde, ils s'installent dans des bâtisses, puis ils s'enferment là-dedans. Mais de les préserver du malin. Cinquième signe, c'est que la vraie sanctification ne consiste pas en la performance occasionnelle de bonnes actions. Là, on va prendre des illustrations qui viennent de la Bible. Hérode. C'est un point sauvé, ça. Mais, ça dit, dans Marc 6, verset 20, « Parce que Hérode craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, il le considérait. Il faisait même beaucoup de choses selon ses avis. » Et il l'écoutait avec plaisir. Voyez-vous, t'es un perdu, t'es un pourri, mais les choses religieuses, c'était un peu comme la lumière, c'était un peu comme un insecte face à la lumière, ça l'attirait. Mais c'est pas des performances de bonnes actions, parce que par contre, qu'il écoutait ce que Jean-Baptiste lui recommandait, que ça faisait de lui un homme qui se sanctifiait véritablement. Dans 2 Chroniques, chapitre 31, verset 21, l'élu de Dieu va pratiquer le bien durant toute sa vie. Ça dit, Ézéchias en usa ainsi par tout Juda, et il fit ce qui est bon, droit et véritable devant l'Éternel son Dieu. Et dans tout l'ouvrage qu'il entreprit pour le service de la maison de Dieu, et pour la loi, et pour les commandements, en recherchant son Dieu, il agit de tout son cœur et il réussit. Autrement dit, une personne qui est un véritable croyant, il va agir de tout son cœur dans tous les domaines, tentant de faire la volonté de Dieu le plus souvent et le mieux possible. Et le sixième, c'est que la véritable sanctification consiste en un respect et en une obéissance à la sainte loi de Dieu. La sainte loi de Dieu, c'est tout simplement ce qu'on appelle les 10 commandements, le décalogue, ou il y a d'autres noms, la loi morale, ça veut dire la même chose. C'est que aujourd'hui, c'est très contesté dans certains milieux chrétiens, la place du décalogue ou des 10 commandements dans la vie du chrétien après son salut. Tout le monde est d'accord avant, mais pas tout le monde qui est d'accord après. Dans les milieux réformés baptistes, dans notre confession de foi, c'est bien indiqué que on croit que les 10 commandements, la loi morale, ça devrait servir aux chrétiens comme règle de vie. Autrement dit, les 10 commandements nous indiquent encore c'est quoi un péché, nous indiquent encore qu'on ne rencontre pas les critères que Dieu veut qu'on ait, c'est Christ qui l'a fait à notre place. Alors ça a un rôle très particulier dans la vie du chrétien après son salut, et nous on enseigne qu'elle a encore sa place. Alors, Paul, il dit dans Romains 7, verset 22, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Et la septième, c'est que la vraie sanctification se manifestera dans le désir habituel de vivre à la hauteur des standards que Paul a mis dans les églises, dans ses épîtres. Si vous prenez, on dit que les évangiles, c'est l'histoire de Christ, et les épîtres, c'est des explications des évangiles, et c'est aussi des règles de vie, toutes sortes de règles de vie. Il y en a des milliers. Alors, ça joue un rôle très important à l'intérieur de notre vie. La huitième, c'est que la vraie sanctification se verra dans l'attention habituelle donnée aux grâces actives, comme celle exemplifié par le Seigneur et particulièrement celle de la charité. Autrement dit, si tu es un nouveau chrétien, tu te sanctifies, tu vas aimer, puis ça va paraître. Ça dit, Jean 13, verset 34-35, « Je vous donne un commandement nouveau, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, que comme je vous ai aimé, vous vous aimiez les uns les autres, c'était ceci, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et la dernière, la vraie sanctification, se verra dans l'attention habituelle donnée aux grâces passives du christianisme. ce sont les grâces de se supporter les uns les autres. Ça, voyez-vous, tantôt, on parlait de grâce active. Aimer, c'est actif. Mais s'endurer, ça, c'est passif. Quand j'endure quelqu'un, il n'y a personne nécessairement qui s'en rend compte. Mais j'obéis quand même au Seigneur en faisant ce qu'il me demande de faire. Alors, ce sont des grâces passives. Par exemple, il dit, « Car c'est une chose agréable à Dieu que quelqu'un, par motif de conscience, endure des afflictions en souffrant injustement. » Verset 20 dit, « Quelle gloire, en effet, vous reviendrait-il si vous supportez patiemment d'être battu pour avoir fait le mal? » Alors, il y a plein d'autres versets qui nous disent que, dans le fond, on se devrait de pratiquer non seulement les grâces actives, qui est l'amour, mais que les grâces passives aussi, c'est quand le Seigneur nous dit « supportez-vous les uns les autres », c'est pas quelque chose qui paraît nécessairement quand on supporte quelqu'un. T'sais? Et c'est pas pour rien qu'il dit « supportez-vous les uns les autres », parce que une fois, ça peut être une personne qui me tape ses nerfs, puis une autre fois, ça peut être moi qui tape ses nerfs à une autre personne. « Supportez-vous les uns les autres », ça veut dire qu'il faut apprendre à vivre avec ça. Alors, les applications, on fait quelques applications. Comprenons-nous ce qu'est la véritable nature de la sanctification. On les a revues tantôt. Et les chrétiens et notre entourage, est-ce qu'ils constatent en nous observant, en nous regardant vivre, est-ce qu'ils constatent des marques visibles de sanctification dans notre vie? Est-ce qu'on est juste des parleurs de religion? Est-ce qu'on est juste des personnes qui vivent des expériences et des émotions? Est-ce qu'on croit qu'on est sauvé par nos bonnes actions? Est-ce qu'on croit qu'il peut y avoir du mérite en se retirant dans des couvents ou des collèges? Est-ce qu'on démontre qu'on est des véritables personnes sanctifiées en obéissant à la loi de Dieu? Et etc., les 10 points qu'on vient de voir. Alors, dans le fond, se sanctifier, c'est de connaître qu'est-ce que c'est la véritable sanctification et aussi de s'apercevoir qu'il y a toujours des marques qui sont visibles et observables par les autres quand on se sanctifie. Que notre grand Dieu soit béni pour son don ineffable, la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen.